Kanyama, qui est un économiste zambien, très connu, semble-t-il, dans les milieux, en tout cas en Afrique. Et il est venu parler justement de liens entre éthique et économie. Et je l'écoutais d'une oreille distraite parce que je faisais autre chose pour la suite de la réunion. Et je l'entendis poser la question, est-ce que vous savez pourquoi les Juifs réussissent si bien en affaires? Je me suis dit, ouïe, aïe, aïe, je vais avoir droit au poncif habituel. Ben non, la réponse c'était, les Juifs réussissent si bien en affaires parce que leur religion leur interdit de tricher et de tromper l'autre. Je dois dire que ça m'a beaucoup plu, évidemment. J'ai même acheté le livre, et si on a le temps, dans le livre, il y a une analyse d'un certain nombre de positions religieuses, et j'en lirai peut-être quelques extraits. Et puis j'ajouterai, avant d'entrer dans ce que j'ai préparé, c'est quelque chose qui m'est revenu en entendant Tariq. C'est une réflexion de Madame Thatcher, je ne sais pas si vous l'aviez entendue à l'époque, au moment où on a célébré le bicentenaire de la Révolution. Elle nous a dit, les Français, ils nous ennuient, enfin, ce n'est pas le terme qu'elle a employé, elle avait des termes plus forts, les Français nous ennuient avec leur révolution, finalement, les valeurs de la révolution, c'est jamais que les valeurs judéo-chrétiennes. Et ma réaction, ça a été qu'elle avait raison et tort, parce que c'est effectivement les valeurs judéo-chrétiennes, mais si, à l'époque, les puissants avaient respecté les valeurs judéo-chrétiennes, il n'y aurait pas eu besoin de faire la révolution. Donc, je vais... Là maintenant, j'ai préparé, c'est une façon de parler, en trois aspects. Le premier, c'est de citer des extraits de la Bible que j'ai recherché dans ma tête pour voir où ils étaient. Ensuite, il se trouve qu'on avait un petit office ce matin, que j'ai parlé avec le rabbin Yann Boissière, qui avait fait il y a quelques années un exposé sur le thème travail, argent, propriété, qu'il m'a passé dans l'après-midi, et je vais en extraire des petits bouts. Et puis, s'il reste du temps, donc je citerai des passages de ce livre. Alors donc, je commence donc par des extraits bibliques, alors il risque d'en manquer, et si j'avais eu plus de temps, j'aurais essayé de les regrouper d'une façon logique, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de répétitions, et en particulier entre les livres qui précèdent et le Deutéronome reprend souvent un certain nombre de choses. Donc la première occurrence, et l'idée revient plusieurs fois, enfin la première occurrence telle qu'elle m'est revenue à l'esprit, c'est en Exode 22-25, « Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne sois point à son égard comme un créancier, n'exigez point de lui des intérêts. Si tu saisis comme gage le manteau de ton prochain, au soleil couchant tu devras le lui rendre, car c'est là sa seule couverture, c'est le vêtement de son corps, comment abritera-t-il son sommeil? Or, s'il se plaint à moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. » Un autre texte qu'on a d'ailleurs lu la semaine dernière, qui est dans le début du Lévitique. Alors, je précise tout de suite, avant de lire ces quelques versets, que assez curieusement, c'est frappant de penser que ce texte que je vais donc vous lire là, se trouve absolument au milieu du texte qui décrit les sacrifices, comment on fait les sacrifices et dans quel cas on fait les sacrifices. C'est au milieu de ce texte qu'on trouve cela. L'Éternel parlait ainsi à Moïse, « Si un individu pêche et commet une faute grave envers le Seigneur, en déniant à son prochain un dépôt ou une valeur remise en ses mains, ou en objet ravi, ou en détenant quelque chose à son prochain, ou, s'ayant trouvé un objet perdu, il le nie et a recours à un faux serment, enfin pour un des méfaits quelconques dont l'homme peut se rendre coupable, lorsqu'il aura ainsi péché et reconnu sa faute, il restituera la chose ravie ou détenue par lui, ou le dépôt qui lui a été confié, ou l'objet perdu qu'il a trouvé, de même tout ce qu'il aurait nié sous un faux serment, il le paiera intégralement, et il y ajoutera le cinquième. Il devra le remettre à qui il appartient, etc. Et ensuite, il fait un sacrifice à l'Éternel. Donc il faut d'abord qu'il indemnise même au-delà de la valeur, et ensuite seulement il fait le sacrifice à l'Éternel, ce qui est l'idée générale, que Dieu ne peut pardonner une faute commise vis-à-vis d'un homme que si d'abord on se l'est fait pardonner par autrui. Un autre texte, un peu plus loin dans le Lévitique, que je vais vous lire. Alors, il est, en plus, ce texte, il est, ces versets sont deux ou trois versets avant le verset où on nous prescrit l'amour du prochain. Puisque c'est dans le chapitre 19 du Lévitique qu'on trouve cela. Et d'ailleurs, c'est un texte, d'un point de vue général, au-delà de ce qui nous intéresse aujourd'hui, est très curieux, en ce sens qu'il y a une alternance de règles qui seront fondamentalement éthiques et de règles qui sont fondamentalement rituelles. Et donc, ce chapitre 19 est très, aussi très intéressant par cela. Donc, c'est là qu'on voit la règle de la moisson dont il faut laisser la glanure. Donc, le chapitre 19, verset 9 et suivant. Quand vous moissonnerez la récolte de votre pays, tu laisseras la moisson inachevée au bout de ton temps, et tu ne ramasseras point la glanure de ta moisson, tu ne grappilleras point dans ta vigne, et tu ne recueilleras point les grains épars de ta vigne. Abandonnez-les aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne commettrez point de vol, point de dénégation, ni de fraude au préjudice de votre prochain. Vous ne jurerez point par mon nom à l'appui du mensonge, ce serait profaner le nom de Dieu, je suis l'Éternel. Ne commets point d'extorsion sur ton prochain, point de rapine, que le salaire du journalier ne reste point par-devers toi jusqu'au lendemain. Et c'est trois versets plus loin qu'on trouve, ne te venge ni te garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même. Donc, le lien de l'amour du prochain, justement, avec ces règles de ne pas lui nuire économiquement. Alors, je continue sur autre chose, c'est ce que tu me disais. Vous savez, sur les histoires de rémission et de prêts et autres, il y a deux textes. Un qui est dans le Lévitique, qui est celui qui traite de l'année jubilaire, donc tous les 50 ans, et puis après un qui est dans le Deutéronome. Et donc, dans le Lévitique, on lit ceci, en l'année jubilaire, donc tous les 50 ans, « Vous rentrerez chacun dans votre procession. Si donc tu fais une vente à ton prochain, ou si tu acquiers de sa main quelque chose, ne vous lésez point les autres, c'est en compte des années écoulées depuis le jubilé que tu feras cet achat à ton prochain, c'est en tenant compte des années de récolte qu'il doit te vendre. » Donc, au fond, ce qu'on achète, c'est des années de récolte, et le bien vendu revient en la possession du vendeur. Et donc, un peu plus loin, on trouve des règles sur le comportement vis-à-vis du frère qui est dans la gêne, vis-à-vis du frère qui vient à déchoir, qu'il faut soutenir, même s'il est étranger et nouveau venu et qu'il vit avec toi. Et donc, il y a aussi le fait qu'il faut libérer les esclaves. Il y a d'abord la règle sur les esclaves hébreux qui est dans l'Exode, et ensuite, il y a cette règle sur le fait qu'il faut libérer les gens. D'ailleurs, il y a un moment où les gens de la famille, il y a un verset qui dit « Car ils sont mes esclaves à moi, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, ils ne doivent pas être vendus à la façon des esclaves. » Et je pensais aussi, en entendant ce que Tariq disait sur la terre, c'est que dans toute la Torah, dans toute la Bible, on trouve en permanence l'idée que la terre est à Dieu, qu'elle est mise à la disposition des hommes, et que donc on est locataire. Et en plus, il y a des textes qui nous disent que si on a un comportement mauvais, pas éthique, etc., la terre vomira ses habitants. Et d'ailleurs, pour la majorité des Juifs, la terre n'est pas terre, la terre, disons, autour de Jérusalem, pour ne pas poser de problèmes politiques. La terre autour de Jérusalem, ou Jérusalem, ce n'est pas des terres saintes ou des villes saintes, c'est des terres qui ont vocation à la sainteté. Et la manière dont on en parle dans la plupart des textes, c'est terre de sainteté, c'est pas terre sainte, c'est ville de sainteté, c'est pas la ville sainte. Donc je continue. Alors je viens maintenant justement à ce que je disais à propos de... Là, je viens de parler rapidement des règles du jubilé, donc tous les 50 ans. Tous les 7 ans, donc ça c'est, maintenant c'est dans le Deutéronome chapitre 15, tous les 7 ans, tu pratiqueras la loi de rémission. Voici le sens de cette rémission. Tout créancier doit faire remise de sa créance, de ce qu'il aura prêté à son prochain. Il n'existera pas de contrainte contre son prochain et son frère dès qu'on a proclamé la rémission en l'honneur du Seigneur. Alors après, on nous dit, l'étranger, tu peux le contraindre, c'est bon. On comprend, vu l'époque, c'est tout de même daté. À la vérité, il ne doit pas y avoir d'indigent chez toi, car l'Éternel veut te bénir dans ce pays que lui, ton Dieu, te destine comme héritage pour le posséder. Mais c'est, etc. Alors, c'est la règle, et on continue sur ce que fait l'indigent. Mais le problème, c'est que appliquer cette règle-là dans l'absolu, ça se traduit par le fait que quand on approche des 7 ans, on ne prête plus. Et que donc, les gens qui ont besoin qu'on leur prête de l'argent pour vivre, ils ne peuvent plus emprunter. Alors, je n'entrerai pas dans les détails parce qu'il aurait fallu que je recherche. Mais les rabbins, je pense que c'est à peu près à l'époque de la période autour de l'ère chrétienne, les rabbins ont regardé ça, ils ont fait une règle qui s'appelle le prosboul, qui est un mot grec. Je ne vous garantis pas l'origine du mot grec, qui est un mot grec et qui était que finalement on prête à un tribunal rabbinique, etc. Ce qui permet de continuer à prêter, parce qu'autrement, avec ces règles-là, quand on est la 6e année avant la loi de rémission, plus personne ne prête. Donc là, on a donc cette difficulté. Et on retrouve donc un peu plus loin dans le Deutéronome, « N'exige point d'intérêt de ton frère, ni intérêt pour argent, ni intérêt pour denrées ou pour toute chose susceptible d'accroissement. » Tu ne dois pas prêter à l'égard de ton frère si tu veux que l'Éternel, ton Dieu, bénisse les divers travaux dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Et alors, tout ça, on peut dire le résumé, si j'ose dire, le non-respect des prescriptions divines, dont celle du comportement qu'on appellerait aujourd'hui financier, je dirais, vis-à-vis du prochain, tout cela, c'est « la terre vomit ses habitants ». Et il y a aussi le chapitre 28 du Deutéronome, quand on le lit au premier degré, qui commence par quelques bénédictions si on se comporte bien, dont par exemple le fruit de tes entrailles sera béni. Et après, on trouve 98 malédictions qui sont toutes plus dures à lire que les unes que les autres. Et qu'on peut lire soit au sens propre ce qui est dur, soit en disant finalement, Dieu s'adresse aux hommes tels qu'ils sont. Et toutes ce qu'on appelle les malédictions, ces reproches, c'est plus des mises en garde. Attention, si tu ne te comportes pas bien, voilà ce qui t'arrivera. Je viens maintenant à deux citations d'Isaïe. Au chapitre 1er, au début, il dit « Écoutez la parole de l'Éternel, magistrat de Sodome, soyez attentifs à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorre. » Alors, je rappelle que la faute telle qu'elle est interprétée par les commentateurs de Sodome, ce n'est pas contrairement à ce que le mot du vocabulaire français laisse penser la sodomisation, c'est le comportement des uns avec les autres, et en particulier qu'ils n'aidaient pas les pauvres, qu'ils n'aidaient pas les indigents, etc., à un point tel que c'est ça la faute, et les gens criaient, et que leur cri est monté à Dieu, et c'est pour ça qu'ils ont été éliminés, dit le texte. Donc effectivement, la faute de Sodome et Gomorre, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui ne pas respecter les règles éthiques vis-à-vis des comportements. Alors, il y a aussi un peu la sodomisation. Mais donc, dans ce texte du chapitre 1er, Isaïe se plaint du fait que les enfants d'Israël de son époque faisaient des sacrifices, je suis saturé de vos holocaustes de béliers, etc. Oui, vos solennités, mon âme les abhorre, elles me sont devenues à charge, je suis là de les tolérer. Quand vous étendez les mains, je détourne, etc. Et donc, apprenez à bien agir, recherchez la justice, rendez le bonheur à l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Et c'est juste là que la phrase qui est tout de même très connue, juste après, c'est « Ô venez, réconcilions-nous, dit l'Éternel, vos péchés, fussent-ils comme le croix moisi, ils peuvent devenir blancs comme neige, rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine », qui est un texte qu'on lit plusieurs fois le jour de Kippour. Dernier texte que je, si je le retrouve, oui, qui est toujours dans Isaïe, mais en 58, quand tu demanderas au Seigneur, il dira, me voici. Oui, si tu bannis de ton sein toute oppression, le geste violent et la parole malfaisante, si tu témoignes ta bienfaisance à l'affamé et rassasies celui qui est torturé par le besoin, la lumière brillera au milieu des ténèbres et la nuit sera comme le plein midi. Donc voilà les quelques citations que j'ai retrouvées en y réfléchissant et avec une ou deux citations. J'en viens maintenant à un extrait de ce qu'a dit donc, dans une conférence qui était sur un thème plus large, puisqu'il commence par le travail, et donc le fait que le travail n'est pas une malédiction, c'est le fait de le gagner, c'est de gagner l'argent à la sueur de son front qui est une malédiction. Et j'en viens à ce qui dit sur les problèmes de richesse et d'argent. Et il dit « L'argent est une machine à libérer des contraintes, c'est un instrument de liberté, en souvenir de l'esclavage, qui peut avoir pour objet de canaliser la violence. » Et il cite, je dois dire que j'ai été très surpris en voyant ça, mais finalement, c'est que la première expérience de rivalité humaine, c'est Caïn et Abel, qu'on peut interpréter comme étant finalement une économie du désir de la rivalité vers Dieu. Et que donc ils ont chacun voulu apporter un sacrifice à Dieu, l'un était agréé et pas l'autre, et donc, là, l'argent, s'il y avait eu à l'époque, aurait pu être considéré comme un régulateur du désir. De même, l'interdiction du sacrifice humain et le remplacement d'Isaac par un bélier apparaît aussi comme une régulation. Une interprétation sur le fameux épisode que je pense vous connaissez tous du songe de Pharaon interprété par Joseph, les sept vaches. Les sept années maigres et grasses. Et finalement, qu'est-ce que fait Joseph, qui est peut-être une des premières leçons d'économie, en tout cas dans nos textes religieux. Qu'est-ce qu'il fait Joseph? Il explique qu'il faut stocker pour les moments de pénurie. Et donc, on peut y voir non seulement effectivement ce qu'on lit au premier degré, Joseph est génial, etc., mais il nous enseigne la mise en valeur du temps dans la maîtrise de la nature et le fait que le temps peut être, pas tout, quand il ne sait pas de la procrastination, j'ai entendu le mot ce matin, c'est pour ça que je l'emploie, quand il ne s'agit pas de différer les choses. Bon, le veau d'or, était dans un mauvais but, mais la transformation de valeur matérielle en quelque chose qui était censé avoir une valeur éthique. Et vous savez que on doit donner tous les ans un demi-shekel, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, justement parce que, et là, c'est... on ne sait que le plus riche et le plus pauvre donnent la même chose. Et il y a plusieurs endroits où on souligne qu'en particulier en matière de justice, il ne faut pas tenir compte de la richesse des gens. Bon, évidemment, ça ne s'applique pas au niveau des indemnisations ou d'amendes, mais c'est ça. Et puis, il y a un commentaire que beaucoup de gens connaissent, il y a malheureusement quelques exceptions, c'est la fameuse règle œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, il y a 6 ou 7 cas, d'habitude on cite œil pour œil, dent pour dent, mais il y en a beaucoup plus, où l'interprétation des rabbins du Talmud a été, au cours du temps, de dire que c'est une compensation financière, au fond, et qu'on doit réparer, à hauteur de... Alors ça, je dirais tout le monde connaît cela, ce qui est très intéressant, mais je n'y viendrai pas d'abord parce que je n'ai pas le texte avec moi, c'est la longueur des raisonnements du Talmud pour interpréter la règle comme ça. Parce que ce n'est pas évident, ça peut paraître d'autant moins évident que dans l'évangile de Matthieu, on t'a dit œil pour œil, dent pour dent, et moi je te dis quand on te frappe, je ne sais jamais dans quel sens c'est, sur la joue droite, dans la joue gauche ou l'inverse. Et donc, on peut lire l'évangile comme étant que l'œil pour œil, dent pour dent s'appliquait encore à l'époque, ce qui n'est, ce qui est pas vrai. Donc, Et en permanence, on doit remercier Dieu pour la richesse qu'il nous donne. Et justement, il nous la donne un peu... Il n'y a pas écrit en dépôt, mais c'est presque ça que ça veut dire. Donc, il y a un certain nombre de textes, je disais, sur le prêt à intérêt que j'ai cité. Et donc, il y a tous ces aspects qui relèvent donc de la... qui disent comment les textes fondateurs et les interprétations au cours du temps. Il y a beaucoup de discussions dans le Talmud pour interpréter ça. Je ne les connais pas toutes parce que je ne suis pas un expert en Talmud. Mais donc, ces textes qui sont dans la Bible, et en particulier donc dans la Torah, le Pentateuque, sont très souvent pas faciles. Ils sont beaux, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même « lève commandement, aime ton prochain comme toi-même », ce n'est pas absolument évident de comprendre ce que ça veut dire. Et donc, il y a plein de textes comme cela, et qui ont été explicités par des très longs commentaires par les rabbins du Talmud, c'est-à-dire, j'allais dire, de part et d'autre de la naissance de Jésus. Et un des commentateurs, qui est considéré comme un contemporain de Jésus, qui est Hillel, a dit, alors je ne sais jamais si c'est en positif ou en négatif, c'est l'inverse de ce qu'on dit chez les chrétiens, c'est « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fiche ». Chez les chrétiens, c'est... il a résumé un jour où il était interrogé par quelqu'un qui lui a demandé de lui résumer la Torah en se tenant sur une jambe. Alors, il avait d'abord le quelqu'un en question avait c'était un païen, le quelqu'un en question avait d'abord demandé à Shammai qui l'a envoyé promener. C'était les deux écoles rivales, Shammai et Hillel. Et quand il est allé voir Hillel, Hillel lui a répondu « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie. Tout le reste est commentaire. Va et étudie. » Donc voilà. Alors, je ne sais pas s'il reste du temps pour...
Pour conclure.
Bon, d'accord.
Un petit peu en retard.
D'accord. Bon, donc je ne citerai pas. Peut-être qu'il y aura des questions dans la discussion qui conduira à le dire. Mais donc, ce que je vous disais de ce livre de ce monsieur donc, qui m'a tellement surpris, qui s'appelle Shibamba Kanyama et son bouquin s'appelle « Business Values for Our Time ». Justement, il a une partie qui est purement économique, encore qu'il y a des aspects. Mais il commence par, alors, il ne parle pas de l'islam, mais il commence par les valeurs en Inde et les valeurs juives. Et donc, le chapitre sur les valeurs juives, c'est leviers qui ont pour conséquence le succès juif, et en particulier sur le fait que le travail est finalement quelque chose qui ne doit pas être considéré comme une corvée. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a une 6-7 pages dans le titre qui s'appelle donc les leviers du succès juif, qui est effectivement une analyse vue par un chrétien de Zambie, une analyse des valeurs juives telles qu'il les connaît. Et il cite même quelques passages, dont certains qui sont tirés non seulement de la Bible, mais même du Talmud.
Merci beaucoup, Jean-François, pour tout ce que tu as dit, et qui comprend donc pas mal de références bibliques. Elles sont communes au christianisme, et on va passer au christianisme avec Bertrand. Oui, Edgar.
Bon, Edgar, c'était pas le moment de manger.
Là. C'est le privilège des membres.
La traduction de Aïn Tachat Aïn,
oui.
Tachat Shen, qui est en français œil pour œil, dent pour dent, n'a rien à voir avec la version littérale. C'est-à-dire Aïn Tachat Aïn, Shen Tachat Shen, ça veut dire œil sous l'œil, dent sous la dent. Ça veut dire quoi ? C'est une sanction juridique, tout simplement. Ça veut dire que si je vole, par exemple, une banane,
oui.
Je ne dois pas être jugé comme si j'avais volé un bijou. C'est toujours en dessous de l'acte que j'ai fait.
Je suis d'accord. Non, mais je...
Donc c'est pour ça que cette expression-là, elle a été galvaudée à cause du passage du pour.
Je ne pense pas uniquement, parce que je pense pas uniquement, et ce qui me fait dire que c'est ça, qu'elle a été galvaudée, c'est la longueur des discussions talmudiques pour justifier l'interprétation financière. Parce que si c'était tellement évident à cause du tachat, donc du œil sous œil, et pas œil pour œil, je pense que les discussions talmudiques auraient été moins longues. Et en général, dans ces trucs-là, il y a quelqu'un à qui je fais confiance.
C'est bien ça ce que ça veut dire.
Oui, bien sûr. Non, mais on est d'accord. Mais je le citais justement pour je l'ai cité pour montrer que justement là-dessus, l'interprétation au départ, si on le lit au sens premier, qu'on dise œil sous. On est d'accord, en fait.
Merci de cette précision. Donc on va passer au christianisme avec tout d'abord Bertrand Dumaret, que je vais vous présenter brièvement. Bertrand est professeur de droit public à l'université Paris-Ouest, qu'on connaissait autrefois sous le nom de Paris Nanterre, conseiller d'État, ancien élève de l'ENA, co-auteur du manifeste des financiers chrétiens atterrés, paru dans La Croix il y a quelques temps. C'était le 5 décembre. Oui, donc c'est quand même tout récent, ça a à peine 4 mois. Et puis, je crois que tu étais également l'auteur, le co-auteur d'une étude sur les annonces de notation en 2007, tu m'avais dit, qui n'avait pas été extrêmement suivie à l'époque, mais qui revient d'actualité. Voilà. Donc, il y a des financiers chrétiens, peut-être que tu vas nous dire au cours de ton intervention s'il y a une finance chrétienne. Tu as la parole donc pour un quart d'heure avant de laisser la parole à Gaël Giraud.
Merci beaucoup Marc, merci aussi à Marielle Zografos de nous recevoir aujourd'hui.